de la foi pour regarder le temporel. Il n'y a plus beaucoup de cours. Hein. Alors, il faut que... Est-ce qu'il y a une différence, et en quoi est-elle différente dans la manière de vivre la chasteté chez l'homme et chez la femme? Bon, vous voyez, vous dégringolez vers la morale, alors que le cours est sur la personne. C'est très significatif, ça. Je suis en philosophie, je ne suis pas en morale. En philosophie, et nous avons vu la différence entre la personne chez l'homme et chez la femme. Alors on va me dire, ça fait partie de la personne. Oui, oui, mais c'est pas la personne, la chasteté. Et je dis ça, c'est, vous avez raison de poser la question. Si c'est une question pour vous, vous devez le faire, et je dois moi la rectifier. Je maintiens. On fait un cours particulier sur la personne. Et nous avons essayé de voir la différence entre la personne et l'homme. Bon, j'ai vu la grande différence, c'est du côté corporel, c'est évident, c'est là où la différence joue. Donc, la chasteté, c'est la conséquence de ça. Nécessairement, il y a une différence. Mais je ne peux pas la traiter ici. Ça fait partie, ça, de... Ça fait partie d'un élément particulier de la personne. Mais ce n'est pas l'élément propre. Je reprends, parce que c'est très important ça. La différence de l'homme et de la femme, selon la finalité, c'est en vue de la procréation. Différence de corps pour la procréation. Et ça doit être vu dans cette perspective-là. Donc, la chasteté est un élément de la dignité de la personne, comme toutes les vertus. Et que la chasteté, regardant le corps, c'est bien évident qu'il y a une différence. Mais en théologie morale, qu'on ferait à des garçons ou à des filles, on pourrait insister sur la différence. Sur la personne, je n'insiste pas. Parce que c'est dit dans le fait que la différence de l'homme et de la femme vient du point de vue du corps, en vue de la procréation. Et que, au point de vue de l'esprit, c'est-à-dire au point de vue de la contemplation à l'égard de Dieu, j'ai dit, la différence est uniquement sur la conquête de la vertu de sagesse. Je crois que la sagesse est acquise différemment par l'homme et par la femme. Mais le but est le même. Il n'y a pas une sagesse féminine et une sagesse masculine. Alors, il y a au contraire, c'est la même sagesse acquise différemment chez l'homme et chez la femme. Oui. Donc la via, la route, est différente. Sûrement, il y a des difficultés différentes pour l'homme et pour la femme. Mais au fond, ces difficultés sont faites quelquefois très proches entre l'homme et la femme, parce que certains garçons ont un tempérament très féminin. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit ça. les filles qui ont un temps très masculin. Ils arrivent à avoir une intelligence très masculine. Oui. De sorte que ce n'est pas une différence philosophique. Philosophique, ils sont les mêmes. Mais vu l'éducation différente de l'homme, du garçon et de la fille, si l'éducation est la même, et aujourd'hui Satan est la même, est-ce que pour les mathématiques il y a une différence? Est-ce qu'il y a des mathématiques masculines et masculines féminines? Vous voyez? Or, l'éducation aujourd'hui se prend à unifier de plus en plus garçons et filles. Si on reporte il y a 100 ans, on serait complètement dirant, mais vous êtes fou, vous oubliez de comprendre cette différence entre le garçon et la femme et la fille. C'est très important, parce que dans le mariage, si la jeune fille n'a pas eu d'éducation féminine et le garçon, bon, mais ça n'ira pas du tout. Il n'y aura pas de complémentarité. Et donc, vous diminuez énormément la richesse. Et c'est ce qui se fait. On diminue énormément la richesse en voulant unifier trop vite et sur un point où c'est pas juste. On fait une grave erreur aujourd'hui parce qu'on manque de réalisme et qu'on veut aller très vite. Alors on fait une très grave erreur, on aura des êtres, ni garçons ni filles. Ils ne sont pas drôles du tout, cette humanité. Autant c'est agréable de parler à un homme, à une femme, qui est vraiment, elle complète, et elle nous complète, mais parler à une femme qui ne complète pas du tout, qui est uniquement notre imitation. On a fait du dire, oh, écoutez, soyez ce que vous êtes, hein, quand même. Hein. Vous voulez toujours imiter le. Et vous ne voyez pas ça, vous allez faire quelque chose de raté. Et on est comme ça, on est en train de détruire la nature humaine. Ça, c'est net. Parce qu'on ne peut quand même pas. Vous voyez, et ça va jusqu'à la procréation. Puisqu'on essaie de faire que la procréation soit autrement que ce qu'elle est selon la nature. Elle est selon ce que Dieu a voulu. On ne parle pas de Dieu, on parle de la nature. Il faut quand même, je crois, la philosophie doit nous aider à avoir le respect de ce qui est et de comprendre la différence qui est entre ce qui est et cette espèce d'idéologie, parce que ça repose sur une idéologie, d'idéologie qui entraîne l'humanité. Et le philosophe doit avoir le courage, parce qu'on fait la philosophie pour cela, de dire cette idéologie est fausse. Et elle va vers la catastrophe. Et ça, c'est tout bien fait de la philosophie. Parce que vous pouvez le faire en théologie. En théologie, c'est évident, on verra. Avec encore plus force que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme de cette manière-là. Mais la théologie, tout le monde ne peut pas l'accepter. La philosophie, vous parlez à l'homme, vous parlez à la femme, et vous devez pouvoir montrer que aller contre la nature, c'est empêcher la vraie personnalité. Parce que la personne dépasse la nature, mais présuppose la nature et le respect de la nature. Et le philosophe doit constamment, lui, rappeler ce respect de la nature. Or, le respect de la nature, c'est bien évident. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être une femme. c'est une chose qui s'impose. La nature humaine, c'est une chose qui s'impose. Et alors, pourquoi aujourd'hui on désire à tout prix changer Bois de Boulogne? Transformation complète, ils veulent se faire ça. Mais au fond, pourquoi ça? C'est qu'on est mal dans sa peau. On est mal dans sa peau. Alors on rêve. On joue un rôle en dehors. Et alors le rêve est tel aujourd'hui qu'il implique la réalisation artificielle. Et ça, on est devant une civilisation qui se détruit, tout simplement. Et si on est philosophe, un peu, on doit rejeter tout ce qui empêche l'homme d'être vraiment un homme, empêche la femme d'être une vraiment femme. Parce qu'on doit respecter la nature. Oui, c'est un des premiers éléments de cette recherche de la personne, c'est que la personne humaine se fonde sur la nature. Et que si je n'accepte pas cette distinction homme et femme au point de vue de la nature, nécessairement, au point de vue personne, ça n'ira pas. Je ne peux être une personne que si j'ai le respect de ma nature et que je l'aime. Et que je l'aime. Et que je ne sois pas influençable selon les modes de chaque époque et qui alors ne donne plus le respect de la nature. La nature humaine fait que l'homme et la femme, il peut y avoir quelque chose de commun au point de vue éducation. Et à un certain moment, si cette chose commune se prolonge et ne développe plus les qualités propres de l'homme et de la femme, on diminuera la personnalité. Il y aura quelque chose qui... La personnalité se fonde sur la nature. On ne peut pas changer ça. La nature est un donné. Et le donné, on le respecte. Et en fonction de ce donné, on pousse le point de vue de la contemplation. Alors, j'en arrive suffisamment parlé. La différence, ces choses. On arrive à dire, au point de vue contemplatif, qui est le type le plus parfait de la personne humaine. On est fait pour être tous des contemplatifs. On est tous faits pour ça. La personne humaine n'est parfaite que dans la contemplation. Je parle de contemplation philosophique. Je ne parle pas de la contemplation mystique, ou chrétienne, ou hindouiste, la contemplation philosophique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette contemplation philosophique ? Comment la contemplation philosophique me met en présence d'un type de personne le plus achevé? Pourquoi? Facile à comprendre. La contemplation me permet d'atteindre ma fin de la manière la plus parfaite. Je ne peux pas atteindre ma fin humaine qui est la contemplation de l'être premier, de Dieu, d'autre façon que de la contemplation. Dieu, je ne peux le connaître qu'en le contemplant. Je suis tellement habitué, alors là, je dois faire ça, attention, je suis tellement habitué que je connais quelque chose que quand je le fais, il y a une espèce d'exaltation. Il faut reconnaître, il faut la voir, il faut la sentir. Une espèce d'exaltation sur le facere. C'est sûr. Le facere est arrivé dans nos civilisations à un très grand degré de perfection. Il y a des ratés aussi parfaites, c'est pas étonnant, parce que plus on s'élève, plus les ratés sont nombreuses. C'est sûr, il y a des exagérations comme ça, on le verra. Mais la contemplation est évidemment, il faut que ce soit évident pour nous. On doit arriver à pouvoir dire que c'est évident pour nous. Et ce n'est peut-être pas évident pour chacun d'entre vous. Que la contemplation est vraiment la perfection la plus grande de ma nature humaine. Et donc, la contemplation de Dieu me permet de dire que je suis en présence de la personne la plus parfaite. Je crois qu'il faut que pour nous, ceci soit une évidence. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde, hein. Pour vous, j'espère. Mais c'est peut-être pas. Si ce n'est pas une évidence, il faut que vous ayez le courage de dire c'est pas une évidence pour moi. Alors pourquoi? Et arriver à comprendre que c'est une évidence. Ce n'est pas si commode que ça. Et c'est très important parce que si vous terminez vos études théologiques sans avoir cette conviction, je vous assure qu'au bout de 10 ans, il y aura des dégâts. C'est très très important ça, de comprendre que la contemplation de l'être premier, de Dieu, de notre Créateur, du Créateur de notre âme, la contemplation de Dieu, si faible qu'elle soit, me montre la personne la plus parfaite, la personne humaine la plus parfaite. Comme conséquence, la contemplation n'est pas la personne, mais la contemplation philosophique de Dieu permet à notre nature humaine d'expliciter, de développer ce qui en elle est le plus parfait. Donc, ce type de personne contemplative est la personne la plus parfaite. C'est une conclusion philosophique qui, je crois, est capitale. Bon, c'est très possible que pour certains d'entre vous, ce n'est pas évident. Alors, si ce n'est pas évident, je vous demande, ça c'est une demande pour votre bien, d'analyser pourquoi pour vous ce n'est pas évident. Et le fait que très peu de personnes y arrivent, c'est pas un argument. C'est, ça serait uniquement se modeler à ce que les gens disent. Donc, ce qu'on dit, ce serait une opinion. Ce serait donc abdiquer ce qu'il y a quand même de plus éminent en vous, d'arriver à des certitudes. Les opinions ne nous donnent jamais de certitude. Donc vous abdiquez que votre intelligence n'est pas personnelle. Il y a une chose très grave là. Mon intelligence, c'est la fine pointe de ma personnalité. C'est par mon intelligence que ma personne se développe. Alors, il y a l'intelligence et l'amour, c'est sûr. Mais c'est mon intelligence qui détermine cela. Alors, je peux très bien avoir une intelligence beaucoup plus artistique, beaucoup plus phénoménologique, beaucoup plus historique, et ne pas accepter que le développement de mon intelligence, ce soit la contemplation. Alors ça, je crois qu'on doit tous pouvoir le dire en toute vérité et maintenir ça durant toute notre vie. Et nous en sommes responsables, puisque c'est une question philosophique. La grâce, ça dépend de la grâce de Dieu. Je comprends très bien, on peut être contemplatif, il est beaucoup moins au point de vue surnaturel. On doit l'accepter, on a des tempéraments plus actifs, un tempérament plus contemplatif. Mais le point de vue philosophique, nous avons tous une nature humaine, nous avons tous une intelligence humaine, et nous devons regarder le sommet de notre intelligence humaine, qui est la contemplation. Et ça, nous l'affirmons philosophiquement, donc non pas au point de vue de la foi. Mon intelligence est faite pour connaître Dieu et pour contempler Dieu autant qu'elle le peut. Elle est faite pour ça. Et si elle ne l'atteint pas, si elle n'y arrive pas, il faut essayer de voir les raisons. Il y a des raisons que je ne peux pas modifier, il y a des raisons que je peux changer. Le but de mon intelligence, la finalité de mon intelligence, c'est contempler Dieu. Toute ma métaphysique est faite pour contempler Dieu. Donc, la métaphysique n'est pas facultative. Si j'ai la conviction profonde que mon intelligence est faite pour contempler Dieu, il faut que j'en prenne les moyens qui s'imposent à moi. Contempler Dieu, philosophiquement, ça consiste à découvrir qu'il est premier et que mon âme est créée par lui. Et c'est découvrir que Dieu est premier comme personne. Il est premier dans son intelligence, dans son amour. Et que son intelligence et son amour s'unissent. Tout dans l'intelligence divine est pour ça. s'achever, se terminer dans l'amour. Puisque intelligence et amour ne font qu'un. Et la contemplation de Dieu, c'est la contemplation de lui-même. Noésis, noéseos. C'est l'intelligence qui contemple l'intelligence. Et cette contemplation de Dieu se contemplait. Il vit dans sa contemplation. Cette contemplation qui est faite d'intelligence et d'amour, elle est unique. Elle est première. Elle domine tout. J'y tends, moi. Et je tends donc vers cette lumière. Dieu est la lumière, puisqu'il est l'intelligence première. Son être est pure lumière, puisque son être, c'est son intelligence. Son intelligence et son être. Il est, c'est sa vie. Donc, cette intelligence divine qui se contemple et qui s'aime, les deux sont liés, intelligence et amour. Et c'est proprement cette intelligence et cet amour qui sont unis, qui est la sagesse. Dieu regarde tout dans sa sagesse. Et c'est la sagesse de Dieu qui va se communiquer en premier lieu à mon intelligence et à mon amour. Ce qu'il y a de plus parfait pour l'homme, c'est d'être celui qui est tourné vers Dieu par son intelligence et son amour et qui l'aime autant qu'il le connaît, et qu'il le connaît autant qu'il l'aime. C'est le propre de cette sagesse contemplative. Je ne peux pas contempler Dieu autant qu'il est content, autant que je devrais le contempler, parce que il y a du retard. J'ai perdu du temps. Nous avons tous perdu du temps au développement de notre intelligence, mais le développement d'intelligence quand même est arrivé à un certain résultat. Et ce résultat, c'est cette contemplation de Dieu. Autant qu'on le peut. C'est donc mon intelligence qui s'est développée de la manière la plus profonde, la plus simple. Contempler Dieu, c'est ce qu'il y a de plus intime dans mon intelligence. Et en même temps, cette contemplation appelle l'amour. Parce que Dieu se donne. Et c'est le don merveilleux de Dieu de m'attirer vers lui. Et donc, une contemplation réelle, profonde, du mystère de Dieu. Contemplation et amour. Je suis lié à Dieu par l'amour. Et je suis lié à la contemplation de Dieu, à l'être de Dieu. Et lumière, je suis lié à lui. Et la moindre lumière que j'ai de lui vaut plus que toutes les connaissances d'extension du monde. La moindre lumière et le moindre amour qui me provient de Dieu vaut plus toute l'extension de ma connaissance. Je touche à ce moment ultime de mon intelligence faite pour contemplation. Et j'y reviens constamment, parce que c'est ça qui vivifie mon intelligence de la manière la plus forte. Cette contemplation de Dieu, le point de vue surnaturel, donne autre chose, mais de fait, je connais Dieu et j'aime Dieu par la foi, donc inutile de le connaître par mon intelligence. Dire ça, ce serait pécher contre la foi. Parce que la foi est surnaturelle et que le surnaturel oblige à la nature de développer ce qu'il y a en elle de meilleur et laisse tomber toutes les choses secondaires. Et donc, si par la foi, je contemple Dieu et j'arrive à une certaine contemplation de Dieu, je ne fais que comprendre davantage la nécessité de tendre vers cette contemplation naturelle de Dieu, puisque mon intelligence se développe comme intelligence. Et mon intelligence se développant comme intelligence, elle est avec l'amour le fondement propre de toute ma vie théologale. Et si ce fondement propre de toute ma vie théologale est bien, est net, ma vie théologale pourra se développer de façon plus parfaite. Je crois que c'est très important pour nous d'essayer loyalement de comprendre cela. Parce qu'alors, on comprend que la sagesse philosophique est nécessaire, d'une certaine manière, nécessaire pour le bien-être, pour une perfection plus grande de la contemplation mystique. Une contemplation mystique qui mépriserait la contemplation philosophique risquerait d'être une contemplation mystique qui ne serait pas juste. Il n'y a, de la part du point de vue chrétien, aucun mépris du Christ, de la vérité. Et l'encyclique du pape sur foi et raison montre bien que le Saint-Père juge nécessaire de tendre autant qu'on le peut à cette contemplation philosophique. Dieu peut faire des suppléances, par exemple pour la petite Thérèse. Mais la petite Thérèse n'aura jamais de mépris vis-à-vis de ce que naturellement l'intelligence peut atteindre. Mais il y aura tout simplement ce respect en disant Et nous ne pouvons pas, nous, mépriser cette voie, puisque ça permet de communiquer à nos frères, à l'humanité d'aujourd'hui, de communiquer la grandeur du fondement de notre vie chrétienne. Et que si ce fondement arrive à être une vraie contemplation de l'être premier, ça permet à notre contemplation divine d'avoir un fondement très profond et qui maintient ce désir de voir Dieu, ce désir de finir sa vie dans cette vision bénéfique. Et plus l'intelligence s'élève en s'approfondissant, plus l'intelligence atteint sa finalité, plus la nature humaine, dans son développement, comprend mieux combien la grâce est un don et un merveilleux don de Dieu, puisque ça me permet de dire que ma finalité, c'est de voir Dieu. Donc il y a là une espèce de concours mutuel de l'intelligence humaine et de la foi. Ce qui est très important, de ne pas maintenir cette espèce d'opposition dialectique entre surnature et nature. Il y a au contraire ce développement normal que plus la nature s'élève vers ce pourquoi elle est faite, plus la nature est capable d'atteindre quelque chose de tout à fait divin, de tout à fait surnaturel. Donc, il y a pour nous plus que ce point de vue naturel, il y a pour nous une obligation de faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Parce que ça permet à l'intelligence de se développer le plus qu'on peut. Comprenons bien que ce sommet philosophique, un sommet qui ne peut s'atteindre que grâce à l'amour. Puisque toujours, selon le principe de saint Thomas, les réalités supérieures à nous, nous ne les atteignons pleinement que par l'amour. L'amour a toujours quelque chose à dire en plus de l'intelligence. Il faut dépasser l'intelligence pour pouvoir respecter pleinement notre finalité. Notre finalité qui implique justement cet amour vis-à-vis du bien absolu, du bien divin, ne peut s'accomplir qu'avec le secours de l'amour. Donc, c'est vraiment un sommet intellectuel et de l'amour qui s'obtient dans ce regard contemplatif. Intelligence et l'amour sont intimement liés et représentent justement cet effort ultime d'aller le plus loin qu'on peut en contemplant Dieu. Et en contemplant Dieu de cette manière, nous pouvons réfléchir alors sur notre intelligence qui accepte de laisser l'amour passer devant. Et on a une intelligence qui éclaire cet effort de l'amour d'atteindre Dieu. Les deux sont intimement liés entre eux et permettent d'une certaine façon permettent que toute notre vie soit orientée vers ce sommet. Alors nous avons là la personnalité la plus parfaite, celle du contemplatif et de la contemplation naturelle de Dieu. Qu'elle soit très rare, ça c'est sûr, mais ça n'empêche qu'elle est pour cela. Et pour ça, c'est une sorte. On est d'autant plus capable de reconnaître que notre vie chrétienne ne rejette absolument pas cet effort. Au contraire, grâce à cet effort, mon intelligence pourra être au service de la foi. Et j'aurai à ce moment-là un nouveau départ, une intelligence de croyant qui s'aide de l'intelligence humaine. Et qui s'aide de l'intelligence humaine pour réaliser le mystère de la contemplation. Qui s'ouvre à la contemplation mystique. C'est la pierre fondamentale sur laquelle la contemplation théologique pourra naître et la contemplation mystique. Et si on supprime cet effort de l'intelligence, d'atteindre Dieu par elle-même, on ne peut que se rabattre sur l'amour. Et l'amour sans l'intelligence, très vite, deviendra une piété, une espèce de ferveur. Ce ne sera plus la contemplation, ce sera la ferveur, ce sera la volonté de respecter.